France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité, demandez le programme. Cinéma, théâtre, musée rouvrent aujourd'hui, les magasins aussi et bien sûr les terrasses où il fait si bon prendre un café malgré une météo incertaine. Ça c'est pour le dire simplement. Nous serons en direct d'une terrasse lilloise dès le début du journal. Après, Agnès, les autres titres.
Et le retour aussi des spectateurs dans les stades et les salles pour le plus grand plaisir des supporters de basket à Limoges. Policiers en colère et politiques côte à côte pour une manifestation cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Une goutte d'huile de friture dans un océan de kérosène pour diminuer l'empreinte carbone des vols long courrier. Et puis le déconfinement version foot avec le retour de Karim Benzema en équipe de France.
Et les invités d'Inter ce matin, Léa, 7h50.
Adieu les cons, Nicolas. C'est le titre génial de son film non moins génial. On va décoller un petit peu pour fêter la réouverture des cinémas avec Albert Dupontel à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 à propos de cette manifestation dont vous parliez, Agnès, des policiers à Paris. Le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au micro d'Inter et qui dialoguera avec vous au 01 45. 24 7000.
France Inter.
Un café en terrasse, une visite au musée, retour en terrasse pour un déjeuner, un ciné en début d'après-midi, un peu de shopping et re-retour en terrasse pour un verre entre amis jusqu'à 21h. Voilà à quoi pourrait ressembler la journée idéale de ce 19 mai, étape 2 sur la voie du déconfinement. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Agnès.
Vous êtes à Lille ce matin, Thibault, quartier de Solferino. Alors, première bonne nouvelle, il ne pleut pas. Et deuxième bonne nouvelle, la terrasse vient d'ouvrir.
Oui, nous y sommes, Agnès. Nous sommes en terrasse avec le technicien de reportage, Laurent Macchietti, et pas encore sous la pluie, vous l'avez dit. Un premier café, donc, à l'ouverture, il y a quelques minutes, du snack de Fanny. La jeune femme s'est levée un quart d'heure plus tôt que d'habitude, à 5h moins le quart, pour prendre le temps et bien de préparer sa terrasse.
C'est parfait, je suis contente. Même si on met moins de tables, je suis contente. Normalement, on met 10 tables. Là, on a baissé à 5-6. Parce qu'on essaye de mettre quand même des tables un peu séparées, un peu de 4, de 2 et tout ça. Et puis, même si c'est la moitié, c'est toujours ça de prix, quoi. Ça va ramener du monde. Même s'il va pleuvoir un petit peu. On est à Lille, hein.
On est à Lille et donc la pluie devrait tomber. C'est prévu dans une heure et ne plus s'arrêter de la journée. Mais ça ne va pas refroidir Jacques. Après sa matinée de travail, ce laveur de vitres est bien décidé à entamer sa première tournée des terrasses depuis bien longtemps.
Je fais ma tournée vitre au matin, l'après-midi, tournée bar. C'est dur réservé. Hein.
Vous allez où?
Là, au centre-ville, à la Grand Place. Où qu'il y a de la place.
Vous l'attendiez avec impatience?
Ah ouais, bien sûr, ouais. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle vie, on va dire. Ça va être compliqué, je crois.
Qu'est-ce qui va être compliqué?
Le retour.
Le retour chez vous.
Voilà.
Retour prévu, donc, ou plutôt contraint pour Jacques à 21h. C'est l'heure du début du nouveau couvre-feu qui entre en vigueur ce soir.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Lille avec Laurent Macchietti, donc pour les moyens techniques. Lille, où l'on retrouvera toute l'équipe du 13-14 autour de Bruno Duvic. Réouverture donc des terrasses avec une jauge à 50%, des magasins et des musées avec 8 mètres carrés par personne et des cinémas et des théâtres avec une jauge à 35%. Pas toujours rentable pour les établissements. Certains vont attendre le 9 juin pour rouvrir. Certains commerçants vont-ils d'ailleurs en profiter pour baisser ou augmenter certains prix? Enquête signée Claire Chaudière.
Côté bar et restaurant, les représentants du secteur sont formels. Les prix ne bougeront pas à la réouverture. Enfin, pas à très court terme. Ensuite, c'est une autre affaire. Des hausses ne sont pas impossibles. A contrario, le secteur de l'habillement qui croule sous les stocks pourrait être tenté, à tort, selon Eric Mertz, le patron de la fédération Allure, de casser les prix sous la pression des consommateurs.
On a un déséquilibre total entre l'offre et la demande. Et là, la tentation peut être effectivement assez grande de voir des opérations avec des remises importantes avant la période des soldes. Donc, je rappelle que c'est la seule période qui autorise la vente à perte. Donc, je crois qu'il faut appeler tout le monde à la raison, à un effort de citoyenneté et à payer les choses au juste prix.
Autre marché bousculé dès aujourd'hui, celui de la livraison de repas à domicile, s'inquiète Jérôme Pimaud du collectif des livreurs autonomes de Paris.
Ça va être comme une chute de la bourse en fait, une espèce de mercredi noir parce que tous les gens vont sortir, il y aura beaucoup moins de gens qui vont se faire livrer. Et les prochains jours, je pense que les plateformes vont certainement tirer sur les commissions. On drague un petit peu les restaurants pour les clients aussi, on fait des codes promo.
Enfin, parmi les secteurs où la demande dépasse en ce moment l'offre, avec même des situations de pénurie. L'équipement de la maison et du jardin, à lui, le vent en poupe. Certains prix ont déjà bondi.
Et puis le gouvernement doit confirmer dans les jours qui viennent la date du début des soldes, prévue initialement le 23 juin, mais certains plaident pour un démarrage plus tardif autour du 15 juillet. Les chiffres côté sanitaire, cette fois, le nombre de malades du Covid hospitalisés est au plus bas depuis 6 mois. La baisse se poursuit également en réanimation, 4015 contre plus de 6000 fin avril. Et pour célébrer cette liberté en partie retrouvée, Emmanuel Macron sera sur le terrain de sport dans l'Aube aujourd'hui pour inciter les jeunes à reprendre le chemin de l'entraînement grâce notamment à une aide annoncée il y a 6 mois, 50 euros par enfant lors d'une inscription en club, 5 millions de jeunes potentiellement concernés. À l'heure où les stades et les salles rouvrent justement, 1000 personnes maximum dans les stades, 800 dans les salles pour le hand ou le basket, les supporters du CSP Limoges sont impatients de pouvoir à nouveau soutenir leur équipe, mais tous ne pourront pas le faire tout de suite. Nicolas Perronnet.
800 personnes, ça peut faire du bruit, surtout quand on n'en a pas entendu depuis si longtemps, mais 800 personnes, c'est peu. Au Palais des Sports de Beaublanc, par exemple, le chaudron du basket à Limoges, c'est 1/6 de la capacité de la salle. Comme la plupart des clubs, le CSP et son directeur Pierre Fargeau ont fait le choix de privilégier les fidèles.
C'est une manière de les récompenser, de récompenser leur fidélité. Vous savez, nous, on a des abonnés qui sont abonnés depuis des années et des années, des partenaires et de la même façon. C'était un moyen de leur dire bah, vous êtes forcément privilégiés par rapport au grand public.
Tellement d'abonnés à Limoges, 2500, que le club a dû les départager par tirage au sort pour les derniers matchs de JP Elite à domicile. Les abonnés et partenaires d'abord, même si c'est frustrant, reconnaît Pierre Fargeau, pour ceux qui ne le sont pas.
Il y aura obligatoirement des personnes qui seront déçues. C'est aussi une frustration pour nous, c'est une frustration pour les joueurs qui préfèrent avoir un stade avec 5000 personnes qui hurlent pour les soutenir.
En Star League de handball aussi, les clubs ont choisi de ne pas ouvrir de billetterie, mais en avançant les matchs en fin d'après-midi avec retour à la maison garanti avant couvre-feu, le basket et le hand s'éloignent enfin du huis clos total. Ce n'est toujours pas le cas du football et du rugby.
Avec un huis clos, effectivement, encore ce soir pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et Monaco. Coup d'envoi à 21h15 au Stade de France.
Il est 7h07, Agnès. Les policiers manifestent cet après-midi devant l'Assemblée nationale.
Un lieu qui ne doit évidemment rien au hasard. Les syndicats de policiers demandent plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre après les drames d'Avignon et de Rambouillet. Des policiers qui seront soutenus par quasiment l'ensemble de la classe politique. Seule la France insoumise sera absente. Un rassemblement auquel même le ministre de l'Intérieur a prévu de participer, peut-être aussi le ministre de la Justice, car dans la majorité, Karine Bécart, tout le monde se doit manifestement d'afficher son soutien aux policiers.
Pour les députés de La République En Marche, c'est compliqué dans le contexte de ne pas aller manifester. Aurore Berger, par exemple, ira parce qu'elle est une élue des Yvelines, les Yvelines où une fonctionnaire de police a récemment été tuée.
On est là sur un rassemblement qui appelle une seule chose, est-ce que oui ou non, on est en soutien de notre police républicaine ? Et je crois que les Français, massivement, répondent oui à cette question.
Mais dans la majorité, certains vont bien plus loin. Ils ont le sentiment d'avoir, à un moment donné, abandonné les policiers. C'est ce que confesse le député normand Bruno Quettel.
On a l'épisode Gilets jaunes, où nous, marcheurs, majorité présidentielle, on a laissé s'installer la légitimation de l'action contre les forces de l'ordre. On n'aurait jamais dû laisser s'installer ce débat-là.
Manifester pour effacer sa culpabilité, l'ancien socialiste Sacha Houlier, devenu macroniste, répond non, il faut manifester pour se protéger.
Il s'agit aussi de ne pas laisser dire n'importe quoi à ce sujet, sur le fait que rien n'aurait été fait, ou que rien n'aurait changé, ou que rien n'aurait évolué, et que la situation n'aurait pas été prise en compte par la majorité.
Une majorité cet après-midi qui sera là, devant l'Assemblée, pas question de se laisser politiquement débordée sur le thème de la sécurité, mais elle s'inquiète quand même d'une mobilisation qui pourrait se retourner contre elle.
Et le début du rassemblement est fixé à 13h30. La France a proposé hier soir une résolution pour un cessez-le-feu auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, initiative soutenue par l'Égypte et la Jordanie, mais qui risque de braquer les États-Unis, qui depuis 8 jours bloquent tout projet de résolution. Sur le terrain, bombardements israéliens et salves de roquettes du Hamas se poursuivent, et la situation humanitaire dans la bande de Gaza ne cesse de se dégrader, avec selon l'ONU, plus de 72 000 déplacés et 2 500 habitants qui se retrouvent sans logement. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h10, de la friture sur la ligne, Agnès.
De l'huile de friture pour réduire l'empreinte carbone des vols long courriers. L'expérimentation menée par Air France est devenue réalité en mélangeant le traditionnel kérosène avec de l'huile de cuisson on peut réduire de 15% les émissions de CO2 en vol. Philippe Lefebvre a assisté hier à Roissy-Charles de Gaulle au départ d'un premier avion, alimenté donc par un biocarburant produit en France.
Cela ne se voit pas au moment de remplir les réservoirs de cet Airbus A350 en partance pour Montréal, mais 16% du carburant embarqué n'est pas d'origine fossile et il vient peut-être de votre fast-food préféré, explique Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
Ce biocarburant, effectivement, il est produit à partir d'huiles usagées de fast-food, donc vous n'allez pas trouver d'huile de palme, il n'y a pas de compétition avec de l'alimentation humaine.
Et 16%, c'est bien plus que l'objectif gouvernemental d'incorporer 1% de carburant durable dans les avions d'ici janvier prochain. Et du côté des ingénieurs d'Airbus, on estime d'ailleurs que l'on pourrait incorporer dans les prochaines années 50% de ce carburant durable. Mais il y a un double problème, la faiblesse actuelle de la production dans une seule raffinerie française et le prix. Ce carburant est 4 fois plus cher que le kérosène d'origine fossile, d'où des répercussions probables sur le prix des billets, reconnaît Patrick Pouyanet, le PDG de Total.
C'est 4 € pour un aller-retour Paris-Montréal. Aujourd'hui, le marché est une niche. Donc avec une expansion du marché, on espère le baisser et ramener à 3 €.
Mais c'est un premier pas, affirme Ben Smith, le PDG d'Air France KLM, avec un avion qui consomme 25% de carburant en moins que ses concurrents et qui, avec ce carburant à l'huile de friture, permet de diminuer de 15% les émissions de CO2 d'un vol transatlantique.
De l'huile de friture dans le moteur, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et pour faire tourner le moteur de l'équipe de France, rien de mieux qu'un Karim Benzema. La rumeur a enflé hier tout au long de la journée et Didier Deschamps a confirmé en début de soirée. L'attaquant du Real Madrid fait bien partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour l'Euro. Retour donc chez les Bleus pour celui qui a joué son dernier match en équipe de France en octobre 2015. Un incroyable comeback que nous raconte Cédric Guillou.
L'affaire semblait entendue. Karim Benzema ne reviendrait pas en bleu tant que Didier Deschamps resterait le sélectionneur de l'équipe de France. Ils étaient fâchés, mais se sont visiblement réconciliés. Tout est parti d'une récente rencontre entre les deux hommes, Didier Deschamps.
Il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Voilà, ça c'est la première étape. Après ma réflexion, j'ai pris le temps de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'avoir analysé ce qu'on s'est dit.
Didier Deschamps a demandé l'avis de ses adjoints avant de tendre la main à Karim Benzema. Il s'est aussi entretenu avec son président, Noël Le Graët. Il a aussi échangé avec Raphaël Varane et Zinedine Zidane au Real Madrid et reçu un fort soutien de Kylian Mbappé qui a très envie de jouer avec Benzema. Didier Deschamps sait aussi sportivement que l'équipe de France a plus de chances de gagner l'Euro avec Karim Benzema. Le sélectionneur a indiqué vouloir oublier le passé, c'est lui qui a validé ce retour, guidé par l'intérêt collectif.
Voilà, et pour voir Mbappé, Griezmann et Benzema, il faudra patienter au 15 juin, premier match de l'équipe de France dans cet Euro, et ce sera face à l'Allemagne.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur la grande muraille verte d'Afrique.